C'est un bien étrange pouvoir, mais n'est-ce pas une malédiction? Cela a commencé un soir, j'avais à peine l'âge de raison. J'étais plongé dans un roman de la bibliothèque rose. Quand j'ai vu qu'il y avait des gens avec moi dans la chambre close.
Bonsoir, bienvenue sur Radio B dans Roman de Gare, l'émission consacrée à l'écriture et à la lecture. Un jeudi sur deux à 18h30, je vous propose de retrouver une autrice ou un auteur. Nous parlerons de ses livres et de sa passion pour l'écriture, sans oublier nos coups de cœur, les sorties de livres et les dates de séances de dédicaces dans la région proche. Pour cette 16e édition de Roman de Gare, j'ai le plaisir d'accueillir dans les studios de Radio B l'auteur rhône-alpin Gérard Sarian, dont le troisième roman L'ombre du prédateur est paru le 14 mars 2024 aux éditions Tornada. Gérard, bonsoir.
Hop. À toutes et à tous.
Voilà. Alors, tu préfères le mot, on va se tutoyer.
Bien sûr, avec plaisir.
Alors, tu préfères le mot auteur, écrivain ou romancier lorsqu'on te présente?
Je suis à l'aise avec le mot romancier. Avec le terme de romancier, je trouve que romancier, ça me correspond. Moi, j'écris des romans et je raconte de belles histoires. Dans le mot auteur, je vois un côté un petit peu élitiste. Et je sais qu'on n'est pas tous d'accord entre auteurs sur le sujet. Donc, j'aime bien le terme de romancier. Voilà.
Écrivain ?
Par définition, je le suis, écrivain, mais romancier, ça me va bien. J'aime bien romancier parce que, à la limite, c'est vaste. Voilà, ça laisse le champ des possibles.
Bon, je dirais raconteur d'histoire.
Oui, très, très bien. Ouais, conteur, ouais. Conteur.
Conteur d'histoire.
C'est très bien, les conteurs.
Ouais. Bien. Quel rapport entretiens-tu avec la lecture, entretenais-tu avec la lecture et avec l'écriture lors de ton enfance et ton adolescence?
C'est une bonne question. En fait, j'ai découvert la lecture d'abord avec des bandes dessinées et des livres d'enfants. Hein. On n'a pas réinventé depuis. Hein. Mmh. C'est toujours la même chose. Et puis au fur et à mesure, j'ai aimé l'idée de m'évader. Quand je lis un Tintin, si je lis un Astérix, si je lis un roman, moi j'ai besoin d'être embarqué. Voilà, je ne souhaite pas autre chose que d'être embarqué. Je me l'applique à moi-même lorsque je lis un livre, je me l'applique à moi-même lorsque j'écris un livre et lorsque je lis un livre. Donc, si je n'embarque pas, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Et il m'est arrivé d'arrêter des livres parce que je n'étais pas embarqué. Voilà. Mais ça peut arriver, évidemment, malheureusement. Voilà.
Tu avais des auteurs, des autrices de chevet, des genres littéraires
Alors, j'avais comme... alors, quand on parle vraiment de l'enfance, je pense à des choses comme le Club des Cinq. Puis après, tu évolues. Hein, tu prends tous les livres qu'on te propose, des livres jeunesse. Tu lis de belles histoires. Je lisais et je crois que j'ai gardé ce réflexe de lire un peu tout. Alors, je raconte souvent dans les interviews tout et n'importe quoi. Et j'insiste sur le n'importe quoi. Je pense que... j'ai été marqué par ceux qui m'obligeaient à lire tel ou tel livre. Et moi, j'ai envie de dire, c'est un môme aujourd'hui, je l'ai appliqué à mes enfants, hein, d'ailleurs. S'ils ont envie de lire, je ne sais pas ce qu'ils veulent, n'importe
l'équipe,
quoi.
L'équipe. Hein.
Voilà, exactement. j'ai été un très grand lecteur de l'équipe. Qu'ils lisent l'équipe, qu'ils lisent Science et Vie Junior, qu'ils lisent des bandes dessinées, des mangas, mais ce que tu veux. Du moment que les gens lisent, je crois qu'on ne se rend pas compte. Moi qui travaille à Paris la semaine, on ne se rend pas compte que dans le métro et dans les transports en commun, les gens ne lisent pratiquement plus et sont sans arrêt sur les écrans. Donc à la limite, réveillons-nous. Et si quelqu'un ou un môme me dit j'ai envie de lire, je ne sais pas moi, quelque chose sans important, mais vas-y, au contraire.
Sur les écrans, on lit aussi.
C'est vrai, tu parles des liseuses ou des choses comme ça?
Oui,
par exemple,
des articles de presse qu'on lit maintenant sur des,
oui,
sur
c'est
des
vrai,
portables.
Oui, c'est vrai.
Hein, voilà.
Alors, moi, tu as raison. J'étais un peu plus sur l'aspect image que représentent certains réseaux.
Ouais. On ne voit plus les livres dans les transports
en commun. Bien sûr.
Alors, qu'est-ce qui fait qu'un jour, tu as décidé d'écrire?
Alors, c'est une question qu'on me pose souvent. D'abord, je crois que j'ai toujours écrit. j'en ai pris conscience très rapidement, c'est que j'étais quand même, ça se voit pas, hein, parce que là les auditeurs ne me voient pas, mais j'étais quand même assez introverti comme garçon. Et donc, j'avais besoin d'écrire, de trouver un support. Donc, alors effectivement, je n'écrivais pas des romans hein, quand j'étais môme, mais j'écrivais. Une page, deux pages, trois pages, n'importe quoi. Ça s'apparente aujourd'hui à ce qu'on pourrait témoigner être un journal. Tu sais, le journal qu'on offre aux ados pour qu'ils puissent raconter leur journée. Eh bien, moi, j'en suis pas loin. Je pense que c'était ça. Et puis, au fur et à mesure, le processus te gagne. Tu le laisses un peu de côté à l'adolescence, tu le reprends un petit peu plus tard. Et donc, j'avais l'impression d'avoir toujours écrit. Et si on est sur la question, c'est-à-dire à quel moment tu as commencé à écrire des romans, ça peut être aussi la seconde partie de ta question. Ouais. En fait, j'ai démarré par des nouvelles. Des nouvelles de 5, 10, 15 pages. C'était très intéressant, c'était très instructif. J'arrivais à faire un début, un milieu, une fin. Et puis un jour, tu passes de 10, 20 ou 30 pages, tu passes à 50 pages, à 100 pages. Et puis un jour, tu te dis, mais pourquoi je m'arrête à 100 pages? Je pourrais faire un roman plus abouti si j'allais à 300 ou 400 pages. Voilà.
Et donc, tu avais une idée précise de roman en tête?
Non. 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 Et je vais te surprendre, quand quelqu'un me dit, vous ne savez écrire ou vous ne faites que du thriller, et je réponds souvent, alors non, mais j'ai très très envie d'aller sur d'autres types d'écriture. Parce que de la même manière qu'un artiste, j'en suis pas un au sens je n'en vis pas, mais je peux penser qu'un artiste n'a pas envie qu'on lui dise un jour tu ne sais faire que ceci ou que cela. Je pense qu'un artiste, il se dit à partir du moment où j'ai le pouvoir de création et d'imagination, je peux faire du feel good, pourquoi pas de la romance, de la littérature qu'on appelle blanche, ou encore du thriller ou je ne sais quoi, ou de la science-fiction. Moi, je suis un petit peu comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne veux pas d'étiquette et j'avoue que je n'espère qu'une chose, c'est te surprendre avec d'autres romans qui peut-être ne seront pas à ce moment-là du thriller.
Alors, ton premier roman, Prison Blank, Water,
oui,
est paru en 2020 sous le nom de G. Sarian,
oui,
aux éditions du Panthéon.
Oui.
Alors, c'est parce que le titre du livre était en anglais que ton prénom ne comportait que la première lettre, comme R.J. Laurie, J.R.R. Tolkien, T.C. Boyle ou H.P. Lovecraft.
Alors, c'est possible. En fait, je ne suis pas du tout à l'aise avec ce prénom de Gérard. Je ne sais pas s'il y a des Gérard dans nos auditeurs ce soir, mais bon, je n'étais pas très à l'aise avec mon prénom. Je ne voulais pas changer de prénom. Alors, je mets G et puis je mets mon nom. Et puis, finalement, je trouve que c'est impersonnel. Les gens ne savent pas le G, s'il correspond à G quelque chose, à Gérald ou à Gontran. Donc, autant préciser que c'est Gérard. Ouais. Donc, j'ai dit, je vais laisser mon prénom. Donc, j'ai rectifié dès le roman suivant, le G en Gérard, voilà, l'erreur est réparée.
Et ça va mieux?
Ah, je me sens beaucoup plus à l'aise, peut-être avec le temps, hein, on se dit, c'est mon prénom. Chacun a ses complexes, le mien est venu aussi de celui-ci. Alors, c'est un petit complexe, hein, je rassure les auditeurs. C'était une question qui s'est posée au moment de l'apparition de mon premier roman, effectivement. Ouais.
Alors, la suite, c'est tout d'abord la signature chez Tornada Édition, maison bien connue dans le monde du polar et du thriller, puisqu'elle accueille des autrices et des auteurs comme Xavier Massé, Isabelle Vilain, Christophe Royer, Magali Collet, Sacha Herbel, Florian Marotta ou Estelle Tarot. Alors, oui, tu étais plus à ta place chez Tornada que tu l'as été dans l'autre maison d'édition?
Oui. Alors, j'étais plus à ma place, c'est-à-dire que ça s'est joué sur un aspect qui est très important quand tu es auteur. C'est, ça va vous parler, c'est d'être accompagné. Si tu es accompagné, en clair, pour faire simple, tous les auteurs pensent avoir écrit un chef-d'œuvre. Beaucoup. Moi, je n'écris pas de chef-d'œuvre. Par contre, j'écris des bonnes histoires et de belles histoires. Et ce que je recherchais à ce moment-là, c'est une aide, c'est clairement un accompagnement. Ce que je ne trouve pas dans d'autres maisons d'édition, parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils espèrent un roman complètement abouti, sans rien, ça n'existe pas. Même les plus grands auteurs, on ne donnera pas leur nom, mais sont aidés, accompagnés. Et on ne parle pas ici que de correction, mais sur la capacité à avoir écrit une bonne histoire. Et je n'ai pas trouvé ça ailleurs. Et par contre, je l'ai trouvé chez Tornada. Lorsque j'ai envoyé mon roman Alors, en fait, j'avais envoyé un premier roman. Et à l'époque, Tornada, c'est Joël, il me répond assez rapidement et il me dit « Écoutez, Gérard, on ne va pas vous publier, on n'accroche pas avec ce roman. Donc, on passe notre tour. En revanche, on a vu des choses de très très bonne qualité et de bonnes idées. Donc si un jour vous avez un prochain roman à nous soumettre, n'hésitez pas, voilà mon adresse. » C'est exactement comme ça que ça s'est passé. Et j'ai aimé l'idée qu'on puisse lire mon roman, parce que un des grands défauts dans certaines maisons d'édition, je ne vais pas dire toutes les grandes maisons d'édition, mais c'est de savoir est-ce qu'on est lu. C'est la question que posent tous les auteurs. Est-ce que vous en avez pris connaissance ? Parce qu'on reçoit un joli courrier, quand on reçoit un courrier, qui nous dit, en gros, vous ne correspondez pas à la ligne directrice de la maison. Ce qui est, oui, la plupart du temps, oui, acceptable. Oui. Mais tu as envie de te dire, est-ce qu'ils l'ont vraiment lu ? Et là, j'avais trouvé chez Tornada que c'était pro, qu'il m'avait expliqué et qui m'avait donné les raisons pour lesquelles il ne voulait pas publier ce roman, que j'ai mis de côté, que je republierai un jour, c'est sûr. Et j'en aurais proposé un autre, quelques mois après, qui s'appelle « Sur un arbre perché ». Voilà.
Alors, un des avantages que possède Tornada Édition, moi je trouve, c'est la sortie des romans au format poche.
Absolument.
Hein, mine de rien, vous gagnez un an par rapport aux romans qui sortent au format broché et au prix deux fois supérieur. Mmh. C'est important pour vous de proposer tout de suite un roman de poche et un prix de poche.
Pour connaître un petit peu la réaction des gens, je vais répondre oui. C'est très bien, le grand format, le brochet. Mais quand tu ne connais pas Gérard Sarian, moi je te mets au défi d'avoir envie de mettre un peu plus de 20-22 euros. J'ai aucun problème peut-être avec certains auteurs américains ou français qui sont très connus, parce que je tiens absolument à avoir leur livre, ça je l'entends. Mais sur un auteur qui n'est pas connu, ben, je pense qu'il faut travailler avec humilité et de se dire, messieurs, dames, au pire, ça t'a coûté 10 euros. C'est rien, c'est un paquet de cigarettes. Il ne faut pas fumer, je rappelle. Mais ça t'a coûté 10 euros, mais tu as la possibilité de te dire « si j'aime pas, j'aime pas » et ça m'a coûté 10 euros. Donc je trouve que c'est très intéressant de démarrer par le format poche, aussi bien pour la maison d'édition et évidemment pour l'auteur. Moi, j'aime bien ce format. Je trouve que c'est un format qui aujourd'hui est plébiscité par beaucoup, beaucoup, beaucoup de lecteurs et de lectrices lorsque je vais en dédicace. Je suis en dédicace pratiquement toutes les semaines. Et donc, les gens me disent « Ouais, c'est super, format poche. J'ai rarement des lecteurs ou des gens me disant « Est-ce qu'il existe un grand format ?» Rarement. Et je peux comprendre, notamment dans les périodes actuelles.
Alors, ton premier roman, se déroulait aux États-Unis,
oui.
Un roman de Gérard Sarian, un auteur au prénom plus français, même si Sarian a une autre connotation,
oui.
Se passe forcément en France ?
J'en sais rien. Je ne décide du roman et du lieu qu'à partir du moment où j'ai le déclic. J'ai eu le déclic pour les États-Unis. Et je raconte juste une petite anecdote, Michel, si tu permets.
Oui.
Sur Prison Bank, ça se passe lorsque j'ai visité ce qu'on appelle le Ground Zero, c'est-à-dire suite aux événements aux États-Unis et les deux tours. Et j'ai un déclic qui est de dire waouh, cette ville m'inspire, New York m'inspire. Mais New York est une ville, ça grouille de partout, mais ça m'inspire. Voilà. Et je me dis, mon roman, je vais le mettre ici. Je vais le mettre à New York, je vais le mettre au large de New York. Et le déclic se passe mais de manière tellement naturelle, de manière tellement fluide. Pour les romans qu'on suivit, en revanche, j'étais un peu plus sur le fait de le rapprocher de ce que je lis et de ce que j'aime, c'est-à-dire en France. Je suis français et je trouve qu'il y a de merveilleux sites en France pour mettre un roman, en fait. Voilà.
Alors, ton deuxième roman, Sur un arbre perché,
oui,
est paru le 19 janvier 2023 et il n'a pas tardé à se faire un nom dans le monde du polar et du thriller en France, puisque la même année, il a remporté le prix des lecteurs Goutte de sang d'encre,
yes,
le prix Noirceur et le prix Coup de cœur Chapolard.
C'est ça.
Hein, j'en oublie ou pas ?
Alors, Noirceur, Chapolard, Sans d'encre à Vienne. Et là, tout dernièrement, un dernier titre, ça sera peut-être un des derniers, le prix des industries électriques et gazières, puisque je suis salarié des industries électriques et gazières. Voilà. Et il a gagné le prix 2023. Voilà.
D'accord. Donc, finalement, je dirais, c'est allé vite finalement. Enfin, vite.
Alors, je ne sais pas ce qui est vite, pas vite.
Par rapport au prix ?
Oui, ben, hein, ça fait toujours plaisir parce que quand tu es sur un roman qui est abouti, que tu embarques, toutes sortes de d'encouragements, je prends. Voilà, je ne suis pas à faire le difficile, je prends et je trouve très intéressant de participer à des prix, que mon éditeur m'inscrive également à des prix. Et puis, quand les lecteurs te plébiscitent, c'est une vraie satisfaction. Je reçois beaucoup, beaucoup de messages sur les réseaux de gens qui me disent « j'ai adoré, j'aime le style ». Tu as aussi des gens qui n'aiment pas, ça peut arriver, il n'y a pas de problème avec ça. Mais quand ils accrochent, l'idée, c'est d'avoir des lecteurs et des lectrices qui me disent « mais continuez ». En fait, je suis très sensible aux encouragements.
Alors, tu ne t'es pas arrêté en si bon chemin, oui, puisque le 14 mars 2024, toujours aux éditions Tornada, est paru ton troisième roman, L'ombre du prédateur. Alors, peux-tu nous raconter brièvement l'histoire sans trop en dévoiler, bien évidemment ?
Oui, alors je peux. on reprend quelques personnages sur un arbre perché. Ouais. Ce n'est pas à proprement parler une suite, puisqu'on peut très bien lire L'ombre du prédateur sans avoir lu Sur un arbre perché. C'est l'auteur qui le dit, j'insiste. C'est le romancier. Donc, on reprend quelques personnages, et notamment Agnès Demar, qui est la capitaine de police. C'est elle qui va mener l'enquête. Ce que je peux en dire, c'est que j'ai adoré travailler ce personnage. C'est un personnage abîmé. J'aime les fêlures dans un personnage. J'aime quelqu'un qui est abîmé. La vie n'est pas lisse pour vous, pour les auditeurs, pour toi, pour moi. Donc pourquoi toujours faire des personnages extraordinaires ? Non, j'aime bien les personnages abîmés, torturés aussi. Pas trop, mais torturés. C'est des gens qui ont des difficultés dans la vie, mais ça nous arrive à tous. Et elle arrive dans une enquête de gendarmerie sur laquelle il s'est passé quelque chose. Un jeune homme de 19 ans a été tué. On le retrouve au milieu du lac et l'enquête de gendarmerie ou les premières conclusions de l'enquête de gendarmerie donnent certains indices. Elle va remettre en cause, dans les premières pages du livre, elle va remettre en cause les conclusions de la gendarmerie et là, l'enquête démarre.
Alors, Agnès Demar démarre.
Ouais.
Agnès Demar, on pourrait dire Demar.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Donc, elle est accompagnée dans L'ombre du prédateur par Jade, une célèbre influenceuse.
Oui.
Dans ton premier roman, le personnage principal était déjà une femme.
Oui.
Alice, en l'occurrence.
Oui. Pourquoi
ce choix de personnage féminin ?
Parce que ça doit être mon côté féminin qui parle, hein, des fois. Mais parce que j'aime bien l'idée. Alors, je n'ai rien contre la testostérone, mais j'écris pas pour ça. Moi, j'écris pour avoir des beaux personnages. Je trouve que travailler la sensibilité au passage d'une policière, une flic, au travers d'une femme, je trouve ça très intéressant. Sur le premier roman, Sur un arbre perché, c'était également une femme parce que je voulais montrer un certain nombre de faiblesses et de choses qu'une femme peut transmettre et peut-être un peu moins un homme. Je suis un homme, mais je trouvais que le traduire au travers du personnage d'une femme, c'était intéressant. Donc c'est pour ça que les personnages que... Alors, elles sont souvent accompagnées d'hommes à côté, mais le personnage principal, j'aime bien que ce soit une femme. Voilà. Mais sur Prison Bank, c'est un homme. Hein, donc voilà, j'essaye de varier.
Alors, en quoi les personnages féminins de vos romans vous ressemblent ?
Ah ben il y a plein de choses à moi dedans. Il y a quelqu'un qui vit le quotidien, qui peut être amené à avoir des difficultés dans sa vie personnelle ou dans sa vie professionnelle. Tout ça fait partie d'une trajectoire qui n'est pas linéaire. Moi j'aime bien et donc je récupère peut-être des fois un peu du vécu, peut-être aussi ce que je lis à côté. Peut-être aussi dans les faits divers, parce que je m'inspire beaucoup de l'actualité aussi. Et j'aime bien le retranscrire pour le personnage sans trop en faire. Voilà.
Anne et Agnès et Jade sont deux femmes que tout oppose au départ. C'est simple de croire et d'écrire que deux générations bien différentes peuvent s'entendre.
Alors, c'était toute la difficulté de l'exercice. Quand tu décides d'aller sur... Alors, pour répondre à ta question, sur la partie de l'influenceuse, c'était un exercice casse-gueule. Parce que c'est à la mode. Et que je ne veux pas être à la mode. Donc, pour moi, ce qui est très important, c'est au moment où j'ai dit « je le fais », c'était d'y aller, de ne pas trop en faire, donc de manière succincte. Et je ne voulais pas d'une influenceuse... style de ce que peut-être vous en avez en termes d'image. Ouais. Je ne voulais pas quelqu'un qui soit une bimbo, je ne voulais pas quelqu'un qui soit lisse, je ne voulais pas de quelqu'un qui soit superficiel. Et on va se rendre compte dans les premières pages et évidemment dans le livre que cette jeune Jade, elle est tout sauf superficielle. Voilà. Mais parce que c'est un exercice très compliqué de s'appuyer sur les influenceuses parce qu'aujourd'hui, heureusement ou malheureusement, c'est tant mieux pour elles, elles font l'actu.
Alors Jade est une influenceuse qui est embauchée pour redorer l'image d'une gendarmerie qui ne donne pas envie d'y travailler.
Oui.
Ça pourrait faire penser à d'autres ministères, celui des finances publiques en particulier. Alors Jade pourrait être l'ambassadrice d'attractivité qui manque à ce corps de fonctionnaire.
Oui, et tu ne crois pas si bien dire, c'est que en quelques mois, personne n'est revenu sur la légitimité d'un ministère qui aurait besoin aujourd'hui de redorer son blason. Je suis allé chercher l'information auprès de policiers hein, en disant qu'est-ce qui serait possible et qu'est-ce qui est, à votre avis, impossible. Et quand je leur ai dit l'idée de l'influenceuse, ils m'ont dit c'est une excellente idée. Bien sûr, à partir du moment où tu peux aider un corps de métier, tout est possible. Et donc, tu le sais, Michel, à un moment donné, quand en gendarmerie ou en police judiciaire, on peut être amené à être coincé, il y a eu, dans le passé, appel à des voyants, à des médiums, à des chars de choses. Donc, on peut, bien entendu, et on serait surpris, aux États-Unis, il y a aussi beaucoup d'exemples, médiums et voyants, c'est plutôt en France, hein, mais on serait surpris du nombre de profilers ou de métiers identiques venant de la communication. Donc, ça m'a semblé être intéressant de creuser ce sujet.
Ça vient en France.
Absolument.
Hein, ouais. Alors, tu as une façon bien particulière, tu as une façon d'écrire bien à toi avec des tas de rebondissements et puis des surprises jusqu'au bout des romans.
Oui.
J'imagine que tu as un plan de travail bien précis et bien fourni.
Oui.
Tu laisses un peu de place à l'imprévu, quitte à ce que tes histoires et tes personnages t'emmènent là où tu n'avais pas prévu d'aller.
Alors, il y a deux questions.
Oui,
la première, c'est oui, une très 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 grosse préparation.
Ouais.
Je ne peux pas me lancer dans un thriller sans avoir
la fin.
Ouais, et sans avoir travaillé. Donc, je travaille le roman, on va dire feuilles blanches. J'écris mon roman. Alors, quand je dis j'écris mon roman, j'écris la préparation de mon roman pendant environ 4 à 6 mois, où je jette des idées, je rature, j'enlève, je regarde ce que ça donne, je retravaille mes personnages. Dès que je suis content du résultat, je le mets sur ordinateur, je retranscris par séquence, j'appelle ça des séquences, et après, et seulement après, je me lance dans l'écriture du roman. Mais lorsque je vais me lancer dans l'écriture du roman, on va dire que 80% du roman, alors il y a toujours des choses qui ne sont pas prévues, évidemment, sinon ce serait trop facile, mais il y a 80% du roman qui est déjà entre guillemets sur mes feuilles, sur mes fiches, et je sais où je vais. Je sais qui va être le méchant, le gentil, le meurtrier, etc. etc. Donc, si tu veux bâtir une intrigue qui soit complexe, mais compréhensible par le lecteur, tu es obligé à un moment donné de la travailler énormément et d'être sûr de retomber sur tes pattes, sur tes pieds à un moment donné. Ouais, donc je travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup. Quitte à refaire plusieurs fois évidemment les scènes, quitte évidemment à refaire plusieurs fois l'intrigue, parce que je suis pas convaincu qu'elle va embarquer le lecteur. Pour moi, le début est très important et la fin est primordiale.
Donc il te reste 20% d'imprévu? Non.
Oui, c'est ça. Ouais. 20% d'imprévus qui vont arriver au fur et à mesure que tu es sur l'écriture de ton roman, hein, bien sûr.
Est-ce que c'est facile pour toi de te retrouver dans tes histoires? Il faut être sacrément concentré et au calme pour écrire.
Alors, Pour écrire, oui. Pour me lire aussi, je pense. Mais pour écrire, oui. Ouais, ouais. J'ai besoin de calme. J'ai commencé sur mon premier roman avec une musique de fond. Et j'avais l'impression que ça me troublait, ça me déconcentrait. Donc, j'ai besoin de calme. Je m'enferme dans ma tour. Une petite tour, on appelle ça ma tour. C'est en fait, je m'enferme le bureau et j'écris. Et j'ai besoin de ça. Mais j'en ai besoin en termes de concentration.
C'est toi qui choisis le titre de tes romans ?
Oui, je le soumets ensuite à mon éditeur, mais je choisis les titres de mes romans. On en choisit des fois avec la correctrice, je peux être amené à en poser une dizaine. Et puis, moi, je ne suis pas quelqu'un qui est dans l'instant. Moi, j'ai besoin de temps. Donc, c'est-à-dire qu'une bonne idée la veille ne sera pas forcément une bonne idée le lendemain. C'est vrai pour mes livres, c'est vrai pour un titre, c'est vrai aussi pour une quatrième de couve. Voilà, j'écris mes quatrièmes de couve que je soumets ensuite à l'éditeur, mais j'ai besoin de temps. Voilà, quand tu me presses, quand il faut faire dans l'urgence, je trouve que c'est une erreur. On a le temps, donc il faut prendre le temps qu'il faut, mais on a le temps.
Alors, autant le premier roman, Sur un arbre perché, tu as fait voyager les personnages dans des villes entre Lyon et Paris, en passant par l'Albanie.
Oui.
Autant avec L'ombre du prédateur, on reste plus à la campagne,
oui.
Du côté du lac de Lambeck que tu situes au centre de la France.
Oui.
Le bilan carbone du deuxième roman n'était pas bon.
Oui, c'est ça, c'est le bilan carbone. J'adore les personnages. En fait, j'adore voyager. Donc, moi, je suis quelqu'un qui parcourt des milliers de kilomètres. Et attention à vouloir voyager, à ne pas perdre aussi le lecteur. J'écris pas que pour mon plaisir, j'écris aussi pour le plaisir des autres. Donc, j'ai aimé ce voyage. Et là, je voulais calmer un petit peu et dire, mais si on restait un petit peu dans le même périmètre, c'est pas plus mal. Et je trouve que ça apporte un peu plus de lisibilité à l'histoire. Voilà. Mais moi, l'idée de voyager, puisque dans le deuxième, c'est sur un arbre perché, où on va jusqu'en Albanie, on va pas te raconter, mais j'ai trouvé que c'était incroyablement instructif. Moi, ça m'a fait découvrir des choses. Et voilà, je trouvais que c'était intéressant. Voilà, je ne veux pas, moi, décrire l'actualité. Moi, si tu veux l'actualité, tu regardes les infos, les chaînes d'infos. C'est compliqué et c'est déplorable. Moi, je veux que le lecteur me dise « j'ai passé un super bon moment ».
Alors, autant depuis la sortie de ton premier roman et encore plus depuis la sortie de Sur un arbre perché, tu arpentes les salons du livre et les séances dédicaces des librairies.
Oui.
T'es un boulimique des rencontres avec ton public.
Oui.
Tu l'étais déjà lorsque tu étais simple lecteur ou tu t'es découvert une nouvelle passion lorsque t'es devenu auteur ?
Ah mais je me suis découvert une simple passion. Je n'allais pas dans les salons. Quand j'étais lecteur,
jamais.
J'allais dans des magasins spécialisés, j'allais à la médiathèque.
Tu n'avais pas la rencontre des auteurs et des autrices.
Non, j'ai cette sincérité de le dire. Je ne savais même pas peut-être que ça existait. Et si tant est que ça existait, ça ne devait pas coller avec mon agenda. Voilà. Mais lorsque j'ai commencé à dire il faut que je défende mes livres, je me suis rendu compte que le monde littéraire est un monde difficile. C'est très difficile. C'est très difficile d'exister. C'est très difficile de se faire éditer. Et donc, je crois que ça passe par une rencontre. C'est une rencontre entre un lecteur et un auteur. Et ça, c'est intéressant que tu me poses cette question. Je mets un point d'honneur à aller à la rencontre, de multiplier les rencontres, de convaincre aussi, parce que quand on ne connaît pas, c'est pas facile, de convaincre les lecteurs de passer un bon moment, de me faire confiance sur les deux bouquins ou peut-être sur le dernier, peu importe, et dire vous allez voir, vous allez passer un bon moment de lecture. J'ai beaucoup de retours par rapport à ça, et c'est ce qui peut-être me fait plaisir.
Tu passes du temps avec celles et ceux qui viennent à ta rencontre. Tu y passes de très nombreux week-ends.
Oui.
C'est une passion plutôt dévorante et chronophage.
Oui. Oui.
Tu vends tes livres, mais pas seulement. Il y a le plaisir de la rencontre avant tout.
Absolument. Ouais. Absolument. Je ne me suis...
Souvent, tu n'en vends pas énormément.
Oui,
dans la journée, alors, par exemple.
Ça va dépendre.
Tout le temps, mais
ça va dépendre.
Tu me dis des fois, tu dois t'en demander très très peu.
Oui, ça peut arriver que tu ailles sur des séances où il y a très très peu de monde, que ce soit en salon ou en magasin, ça peut arriver. Ça te met le moral un peu à zéro. Mais je te raconte une petite anecdote qui s'est passée à Lens cette année, où je rencontre deux personnes formidables qui travaillent en médiathèque, et elles me disent là où vous êtes aujourd'hui, il y a quelques années, Karine Gibel, qui est une référence quand même pour nous auteurs, et elle me dit il n'y avait personne sur son stand. Et aujourd'hui, quand tu vas à Lens ou dans des salons, Karine Gibel, il y a une file d'attente de je sais pas, d'une trentaine de mètres. Donc tous les espaces sont permis, il faut y croire, mais tu ne peux pas, avec un bouquin, deux bouquins ou même trois, tu ne peux pas prétendre aujourd'hui accéder, si ce n'est à la notoriété, en tout cas à voir que tous les gens attendent avec impatience ton dernier bouquin. Ça se construit peu à peu, étape par étape. Et ça, c'est bien de ne pas être trop pressé pour ça.
Alors, lors des salons auxquels tu es invité, tu côtoies tout le gratin du polar, et de temps en temps, le gratin du polar et du thriller français, autant les grands noms que les grands talents sous-estimés.
Oui.
Ça fait quoi d'être au milieu de ces noms, certains grands dont tu fais partie désormais?
Alors, pas encore. J'aimerais bien.
Ça veut dire quoi être grand, oui.
Oui. Voilà. Il faudra continuer à travailler, écrire des bonnes histoires. Je pense que c'est ce qui va faire que le lecteur aura envie de te suivre. D'un bouquin, trois bouquins, ou demain, pourquoi pas, 20 bouquins. Ça fait quoi? Ça fait rien du tout. Tu ne te rends pas compte quand tu passes les étapes. C'est comme tu passes d'une équipe 3 à l'équipe 2, de l'équipe 2 à l'équipe 1. Je ne sais pas si je suis encore en équipe 3, en équipe 2 ou en équipe 1. En tout cas, je les regarde tous avec des yeux non pas envieux, parce que je suis très heureux du succès des autres. Moi, je suis jaloux de personne. Mais je me dis, qu'est-ce que ça doit être bien d'avoir une file de 20 personnes qui attendent pour te signer un autographe et une dédicace. Donc là-dessus, j'ai pas de débat. C'est très bien d'être et de les côtoyer. Et tu te rends compte d'abord qu'ils sont comme toi, qu'ils ont démarré comme toi et qu'il n'y a pas de secret. Tout se fait en étant patient et en travaillant dans le respect, je pense.
Avec qui as-tu eu le plaisir de discuter récemment, avec les autrices et les auteurs?
Alors, j'ai eu... récemment, j'ai beaucoup discuté avec Alexis Lepsker, qui est quelqu'un de très accessible, de très sympa. Mmh. J'avais beaucoup apprécié son contact. Il y a 3 ans, Olivier Norek, qui était très agréable aussi, très sympa. Voilà, des tas d'auteurs. Je vais faire attention parce que je vais en oublier.
Oui.
Mais des auteurs connus et aussi des auteurs que tu jugerais peut-être inconnus pour le grand public. Mm-hmm. Et moi, ça me va bien. J'adore ce contact auteur.
En tout cas, l'envie d'écrire est toujours là.
C'est une passion.
Oui, hein.
J'écris tous les jours avec un processus qui est presque une discipline. Tel un sportif, 6 heures du matin, 8 heures du matin, j'écris.
Donc, t'en es qu'à ton troisième roman.
Oui.
Alors, j'imagine que le prochain est déjà écrit.
Alors, il est écrit. Alors, en fait, ça va être un scoop pour vous. C'est qu'en fait, Prison Bank aujourd'hui n'est plus disponible. Donc, j'ai récupéré les droits. Je cherche à le refaire rééditer. Et évidemment en format poche, si c'est possible, ou en grand format, on verra. Et j'écris la suite, parce qu'il y a une suite. Et donc, je l'ai finalisé là ces derniers jours, il est en correction. Et dès qu'il sera sorti de correction, je vais me mettre à la recherche d'un éditeur pour le faire paraître.
Bien. Tout à l'heure, nous évoquions les séances de dédicace. Il est l'heure de passer à la rubrique 4e de couverture.
Je vous connais pas, je vous frôle, là sur le quai, épaule contre épaule, sur les quatrièmes de couverture, nous cherchons la même aventure, sur les quatrièmes de couverture.
Quatrième de couverture, ce sont nos coups de cœur, les sorties et les dates des prochaines séances dédicaces. Gérard, quel est ton dernier coup de cœur littéraire ?
Alors, je vais te dire, j'ai pratiquement fini Le Chuchoteur de Donato Carisi. Donc, ça va être un coup de cœur, parce que là, c'est vraiment un très, très bon livre. Voilà, je vais m'en tenir là. Et j'ai démarré un autre livre, L'affaire de l'île Barbe de Stanislas Petrovski. Voilà, j'arrive à lire 1 à 2 livres en même temps, à mon rythme, mais j'y arrive.
Alors, côté sortie, notons la sortie des romans de Nicolas Nuten, Terra Mater aux éditions Nouveaux Auteurs 2, Salvatore Mini à Amamnèse chez M+ Éditions, Rosalie Louis, La Malédiction de Reggio, toujours aux éditions Nouveaux Auteurs 2, Sonia Delzongle, Noir comme l'orage aux éditions Fleuve Noir, Max Monnet, À la gorge aux éditions du Seuil, Antonio Lanzetta, L'Homme sans sommeil chez Mera Éditions, notre ami Cécile Baudin, La Constante de la Louve, Bernard Minier, bien sûr, Les Effacés, hein, chez MOXO Éditions. Clarence Pitts, Les Enfants du Silence, aux éditions IFS. Et Michel Moati, Lancaster, aux éditions Hervé Chopin. Merci Gérard Sarian d'avoir accepté l'invitation.
Merci à toi.
De Radio B et de Roman de Gare.
Merci.
Rappelons que ton troisième roman, L'Ombre du Prédateur, est paru le 14 mars 2024 aux éditions Tornada. On peut se procurer où, sans oublier tes précédents romans?
Alors, en librairie, dans les magasins, sur les réseaux, un peu partout. Et concernant donc Sur un arbre perché et L'ombre du prédateur, voilà. Donc, n'hésitez pas à solliciter les magasins et les libraires. Et en ce qui concerne Prison Bank, aujourd'hui, il sera disponible. Il n'est plus disponible, il sera disponible, je pense, plutôt sur le dernier trimestre de l'année 2024.
Donc on peut suivre ton actualité sur les réseaux sociaux.
Oui, absolument.
Voilà. Gérard, bonne chance pour la suite de tes aventures de romancier. Ben oui, j'ai noté, de romancier.
Merci.
Bonne écriture.
Merci.
Bon salon.
Merci.
Bonne séance de dédicace. Et puis à bientôt sur Radio B.
Merci pour votre invitation, à bientôt.
À bientôt.
Au revoir à tous.
J'ai un bien étrange pouvoir, mais n'est-ce pas une malédiction? Cela a commencé un soir.